Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fou d'histoire et folle d'histoire pour donner la parole à ceux à celles qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire, la leur et la nôtre. Le dernier frère se promène sous le tropique de la violence pendant toute une année lumière. De Madras à l'île Maurice, le ciel par-dessus le toit, et puisque rien ne nous appartient, voici le temps de la mémoire délavée. Je rêve d'un livre qui dirait le passé, le présent et tout ce qu'il y a entre. Que c'est beau, écrit Natacha Apana dans La mémoire délavée, écrivaine et folle d'histoire.
Éloigne-toi des gens du dépôt. Ils ne t'aideront pas. Ils ne t'apporteront que des espoirs. Et par-delà les mers, ils t'emmèneront vers les colonies qui sont des prisons.
Bonjour Natacha Apana.
Bonjour Xavier Mauduit.
Ce que l'on vient d'entendre, vous l'avez placé en exergue de votre roman et les rochers de la poudre d'or avec l'évocation de ce pamphlet. C'est une source du 19e siècle. Il apparaît dans quel contexte, ce pamphlet? Ça s'adresse à qui?
Alors ça s'adresse aux Indiens qui quittent leur village et qui parfois, au cours de ce voyage, pour trouver du travail ou plus de nourriture ou un logement, rencontrent des recruteurs. Ils les appellent les mestris et ces recruteurs les font signer un contrat pour qu'ils aillent travailler dans les champs de canne à sucre.
Éloigne-toi des gens du dépôt, ils ne t'aideront pas. C'est déjà une mise en garde pour dire ne faites pas confiance parce que oui. J'imagine que ces recruteurs promettent le meilleur.
Ils promettent, alors ils promettaient plein de choses. Ils promettaient que l'endroit où ils allaient se retrouver est un endroit paradisiaque où il suffirait de se baisser un peu et l'or se trouverait sous les rochers. Il promettait une vie merveilleuse, il promettait beaucoup d'argent et il promettait surtout un retour au pays, donc en Inde. Sur ce pamphlet-là, il y a un mot que je trouve très intéressant, c'est le mot « dépôt ». Parce que sur les ports de l'Inde, au 19e, donc les comptoirs anglais, français et hollandais, il y a ce qu'on appelle des dépôts, où sont regroupés ces Indiens-là, ces Indiens qui signent des contrats pour ensuite monter sur des bateaux.
Ce n'est pas de l'esclavage.
Non, ce n'est pas de l'esclavage. La différence, elle est. Parfois, on me dit, est-ce que la différence est symbolique? Je dis oui, peut-être la différence est symbolique, mais le symbole, c'est important. La différence, elle est très simple. C'est les Indiens signent un contrat. Les Indiens peuvent venir avec leur famille. Les Indiens ne sont pas enchaînés. Les Indiens ne sont pas asservis de la tête aux pieds. Et surtout, aussi symbolique, aussi minime que ce soit, ils reçoivent un salaire.
Et oui, c'est ça, ils reçoivent un salaire, dès lors il n'y a plus d'esclavage, mais dans la réalité des conditions de vie, c'en est très proche.
C'en est très proche, puisque souvent les Indiens se retrouvent sur ce qu'on a on appelait très joliment d'ailleurs les îles à sucre, dans les mêmes conditions d'habitation et d'évolution sociale et même spatiale que les esclaves noirs, puisqu'ils occupent les mêmes huttes dans les plantations. L'organisation spatiale des plantations reste la même. Donc les Indiens, en fait, ne font que remplacer cette labeur-là avec, évidemment, une autre culture, une autre manière de faire. Mais j'imagine souvent ce que c'est. Est-ce qu'ils pensaient à ces choses-là? Ou est-ce qu'ils les croisaient, ces esclaves? Comment est-ce qu'ils se parlaient? Mais je crois que non, ils se parlaient pas. Souvent, un asservissement remplace un autre. Et on aime à penser que les choses s'échangent, qu'une solidarité s'échange, mais je crois que non.
C'est difficile, Natacha Apana, de prononcer les chiffres très longs, vous savez, un peu numéro de sécurité sociale. Alors, on peut les segmenter, on peut dire 3, 5, 8, 4, 4, ou alors on peut faire par petits blocs 35, 84, 44, ou 358, 444. Vous prononcez comment, vous?
Moi, je dis 358 444.
C'est quoi ce chiffre?
Ah, c'est le numéro de mon trisaïeul, donc mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui est arrivé à l'île Maurice sur un bateau qui s'appelait le John Allan en 1872. Donc quand ils arrivent, les Indiens, ils descendent du bateau. Donc ça, c'est l'île Maurice. Donc ils ont fait à peu près 2 mois de bateau. Et il faut savoir qu'il y a certains bateaux qui arrivent aux Antilles. Et là, c'est 5 mois de voyage. Je vous laisse penser à l'état dans lequel ces Indiens-là sont après 5 mois de bateau. Là, ils arrivent à l'île Maurice et là, ils sont fichés. Ils sont examinés et on leur donne un numéro. D'abord, avant tout, parce que leur nom est quasiment imprononçable pour les personnes du bureau colonial. À ce moment, l'île Maurice est colonie britannique. Parce que sur ce leur laissez-passer, il y a ce numéro. Et c'est ce numéro qui leur permet de se faire identifier quand ils sortent de la plantation.
C'est un sujet que vous avez déjà traité, Natacha Apana. Cet engagisme, ces gens qui signent un contrat et qui se retrouvent à remplacer des esclaves mais dans des conditions à peu près similaires. Dans la mémoire délavée que vous publiez au Mercure de France, vous faites œuvre d'historienne. Il y a la volonté, le souhait, le désir et parfois la quête des sources de retrouver la trace première.
Alors je ne sais pas si je fais œuvre d'historienne. Je savais que cette quête serait incomplète. Je savais que tout ce que je voulais chercher, moi qui ai écrit des romans par le passé et qui aime le détail, qui aime savoir ce qu'il y a en creux, ce qui ne se dit pas, qui aime soupeser le silence, je savais que ces choses-là, je n'allais pas les trouver dans les archives et que je me confronterais à quelque chose d'un peu froid, d'un peu administratif, pas d'un peu, de très administratif, avec un langage lissé. Mais je voulais confronter cette chose-là, la réalité des archives, l'utilité de la statistique, à l'oralité de mon éducation, de ma culture, à cette expérience que moi je trouve formidable, ce qui était d'avoir vécu avec mes grands-parents dans leur maison et d'avoir expérimenté au quotidien ce que c'est que vivre avec un monde disparu, un monde ancien. Mes grands-parents, ils ressemblaient, ils avaient l'air figés dans un livre d'histoire en réalité. D'ailleurs, parfois, quand je montre des photos de mes grands-parents, on a l'impression que c'est des photos des années 20, alors que c'est des photos des années 70 et 80. Ils ont même une couleur, une manière de se mouvoir, une manière de s'habiller et d'habiter le monde qui est fragile, qui est doux, qui est ancien, qui n'est pas vieux, hein, mais qui est ancien.
Vous évoquez ces photographies. C'est vrai que la photographie est difficile à dater quand on lui donne toute une histoire et une mémoire. Elle est porteuse d'un passé elle-même. Et dans la mémoire délavée, il y a cette évocation de photos anciennes. C'est-à-dire que ces hommes, ces femmes qui arrivaient, après avoir quitté l'Inde, laissaient aussi quelques traces photographiques.
On prenait leurs photos quand ils arrivaient à un autre dépôt, hein, ça s'appelait le dépôt de Port-Louis. Et donc ils quittaient un dépôt en Inde et ils arrivaient dans un autre dépôt et donc on prenait leurs photos et aux archives du Mahatma Gandhi, qui est à Moka, qui est une localité au centre de l'île Maurice, il y a à peu près 175 000 photos. C'est des planches assez impressionnantes de visages prises aux trois quarts. Alors, par exemple, mon ancêtre, il a l'air complètement hagard, ébouriffé, effaré. Donc lui, il est arrivé en 1872. Les années passant, on voit que les Indiens qui arrivent commence à avoir l'expérience de ce voyage-là. Et alors, est-ce que justement cette expérience se partage ici de bouche en bouche, comme ça, d'année en année? Et parfois, sur des photos, les gens sont bien mis, avec des bijoux, bien coiffés. Et donc, il y a là déjà, sur cette photo, quand on les regarde d'année en année, par exemple, si on regarde une photo de 1872 et ensuite une photo beaucoup plus tard, de 1892, en 20 ans, il y a quand même un changement même dans l'apparence et dans la manière de se tenir sur ces photos-là.
Cette année, 1892, Natacha Appana, vous là-bas. Choisissez pas par hasard. 1872, on l'a compris, c'est l'arrivée. 1892, ça représente quoi dans votre histoire? Histoire personnelle, mais histoire également d'écrivaine.
Alors, 1892, c'est l'année que je choisis pour dater l'histoire de mes cinq personnages dans mon premier roman qui s'appelle Les Rochers de Poudre d'Or. Et je fais un travail, évidemment, je m'appuie sur de la documentation, je m'appuie sur des livres d'histoire, mais les personnages sont d'abord dans ma tête. Je les habille dans ma tête. Je me souviens, j'avais acheté une grande carte de l'Inde que j'avais trouvée dans une vieille boutique et que j'ai étalée sur le sol, et avec un stabilo, je dessinais leur chemin de leur village jusqu'au port, en essayant de, comme ça, de relever certaines choses, même de l'ordre de la topographie du pays, en disant là ils montent, là ils descendent, là il y a une rivière. Et voilà, c'est un roman que je situe dans cette année-là, mais quand j'écris ce roman-là, Je ne sais pas, moi, que mes ancêtres, ils sont arrivés avant. Dans mon esprit, mes ancêtres sont arrivés bien après. Et donc, j'écris ce roman en me disant que, à l'époque où je situe ce roman, mes ancêtres, ils sont en Inde. Ils ne sont pas encore à l'île Maurice. Donc, je m'octroie une liberté que peut-être que je n'aurais pas eue si je connaissais cette information.
Vous venez de dire, dans mon esprit, ils étaient arrivés plus tard. C'est très intéressant de dire ça. C'est même pas de la mémoire, on aurait pu dire, dans ma mémoire, ou dans ce que l'on m'a transmis, ils sont arrivés plus tard. D'ailleurs, comment ça se transmet, cette histoire-là, dans votre famille? On vous en parle du moment de l'arrivée, on évoque cette histoire.
Alors, on parle pas du tout du moment de l'arrivée, on parle pas du tout des conditions de travail. Ce dont on parle, c'est d'un esprit, c'est d'une manière de se tenir, d'une éducation, d'une tradition. Par exemple, ma grand-mère, elle était très religieuse, elle était très pieuse, elle était très superstitieuse, un peu paranoïaque, et parfois elle avait des rites, et elle me disait que c'était des rites qu'elle avait elle-même vu faire par sa mère et par sa grand-mère. Donc par là, elle me racontait ce que eux ils faisaient sur la plantation. Sinon, cette histoire, la première fois, je crois que j'ai que je l'ai apprise, c'est à l'école primaire. Et d'ailleurs, c'est une instruction qui se passe d'une manière très étrange parce qu'elle nous est transmise de comme si les Indiens sont des grands naïfs. Il y a des dessins d'enfants. On voit des Indiens qui sont des êtres soit bedonnants, soit très maigres, et qui viennent sur une île pour soulever des rochers, et là qui pleurent toutes les larmes de leur corps parce qu'il n'y a pas d'or sous les rochers. Et moi, je me souviens que je disais, mais ils sont bêtes ou quoi, ces Indiens? Comment on peut croire à une chose pareille? Et je crois que là, chez moi, il se fait quelque chose de l'ordre du refus de ce qu'on veut me faire croire, de l'ordre peut-être du refus du grand récit, hein, de ce récit de langagisme, en me disant ça ne peut pas être que ça, il n'y a pas eu 500 000 naïfs arrivés à l'île Maurice. Il y a aussi une chose, vous savez, à l'île Maurice, la majorité des Mauriciens sont d'origine indienne. Et quand c'est une majorité, il y a comme une banalité de l'histoire qui s'inscrit. On n'a pas besoin de dire d'où on vient, puisque ça se voit sur les visages, parce que ça se voit dans la manière d'être, dans peut-être le respect des traditions. Et donc, pour moi, cette histoire, elle était banale. Elle se vivait de manière intime, certes, puisque j'ai été éduquée dans une famille avec des traditions indiennes, avec des rites indiens, mais on me parlait très peu de l'arrivée. On me parlait très peu de la misère, par exemple. On me parlait très peu du labeur. Mais ceci étant dit, mes grands-parents, avec qui j'ai vécu, comme je vous disais, étaient des laboureurs. Ils l'ont été toute leur vie. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de me le dire, ça, je le savais, ça.
Ils vous montraient les lieux de cette histoire-là, quand vous étiez là-bas, dans l'île Maurice, chez vos grands-parents, c'est au Piton, c'est ça?
Moi, je suis née, j'ai grandi à Piton.
C'est loin de la mer, hein?
C'est
une île, c'est jamais loin de la mer.
Oui, voilà, c'est ça. C'est à une demi-heure, je dirais.
Une demi-heure, voilà. Oui. C'est pas sur le littoral directement. Non. Et il vous montrait les lieux là où y avait les champs, là où il y avait les plantations.
Les champs, je les voyais. Je les voyais tous les jours. Les champs de canne, ce vert très pâle des champs de canne. Et juste avant la récolte, au mois de mai, il y a quelque chose de... Pardon, je digresse sur la... sur le détail des choses, mais quand on est enfant, la beauté a quelque chose, la beauté veut dire quelque chose, même si c'est pas une beauté qu'on vous montre précisément en vous disant « Regardez, c'est beau ». Moi, je le ressentais, ça, cette immensité verte qui était le lieu du travail de mon grand-père et de son père et d'une grande partie de ma famille, le lieu de... On disait ce mot-là, on disait le mot « trimer ». Je trime du matin jusqu'au soir. Et pour moi, ce lieu-là était d'une grande beauté par ses couleurs. Il y avait ce vert très pâle et surtout, avant la récolte, au mois de mai, tous les champs se recouvraient d'un rose délavé, parce que c'était les fleurs des champs de canne. Et de loin, ça faisait comme un duvet qui s'étalait comme ça jusqu'au bleu de la mer. Donc c'était très beau. Donc moi, j'ai vécu là, à côté de cette beauté-là. Et cette beauté-là était source de chagrin pour mes grands-parents. Je me rendais compte qu'eux ne voyaient pas l'île comme moi je la voyais. Qu'il y avait une dimension de la terre, de la géographie, qu'il y avait une poésie que moi je voyais. Et ils étaient étrangers à cette poésie-là. Pour eux, ils ne voyaient qu'une source de travail. Et peut-être qu'ils ne voyaient qu'une île à sucre, justement, pour produire du sucre.
Ouais, il y avait ce travail, cette souffrance, ce regard porté sur tout cet univers et même sur cette histoire-là, parce que les traditions familiales se portent. Vous le dites très bien, hein, Natacha Apana, il y a ces traditions, il y a des reproductions, mais... On le sait tous, on fait ce que nos parents nous ont appris quand on était petits. Est-ce que tout ça se transmettait, alors du point de vue religieux bien sûr, mais dans la cuisine, dans la manière d'être, ce rapport à l'Inde qui est quand même un passé à la fois lointain et pas si lointain, parce que ce sont les années 1870. Quand vous naissez, ça veut dire que ça fait juste un siècle.
Oui, ça fait un peu plus d'un siècle. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un siècle? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Comment peser ces choses-là? C'est fascinant, je trouve, quand on écrit en se disant ils sont arrivés plus d'un siècle avant ma naissance. Et plus loin, je me dis, mais non, ce n'est rien qu'un siècle. À l'aune de ce siècle-là, je crois que ce qui est resté... Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que je me rendais compte que les premiers arrivés, donc arrivés avec pas mal de choses avec eux. Donc évidemment des traditions, des choses impalpables, mais également des instruments de musique, des ustensiles de cuisine. Et il y a une chose qu'ils aimaient vraiment, parce que ça, ils ne pouvaient pas transporter, pardon, ils appelaient ça la roche carie. C'est une pierre volcanique qu'ils faisaient tailler dès qu'ils arrivaient à l'île Maurice, sur la plantation même. C'était vraiment quelque chose de très important, parce que c'est sur cette roche-là qu'ils écrasaient leurs épices. Et cette roche se transmet de mère en fille. Moi, dans la cour de ma maison à Piton, il y avait la roche carie que ma grand-mère a reçue de sa mère et qui elle-même a... Et c'est une technique incroyable parce qu'il y a un roulé, appuyé, écrasé, je ne saurais vous dire, pour que les épices en grains d'abord se transforment en pâte ou en poudre. Mais moi, je savais que de cette chose-là, de ce roche carie-là, je n'en aurais pas besoin. Je savais qu'il y avait un moulinex dans la cuisine de ma mère. Et ça, c'est un exemple de ce que j'appelle le délestage. Dans tous les récits de migration, d'exil, les êtres, les hommes et les femmes se délestent lentement de certaines choses. Ils font un choix pour vous, un choix de la langue, un choix de rite, un choix de tradition, en se disant « mon enfant n'aura pas besoin de ça ». Et je crois que c'est un instinct de survie poussé au maximum. Ma grand-mère ne m'a jamais appris comment écraser les épices parce qu'elle savait que je n'en aurais pas besoin. Comme elle ne m'a jamais... Enfin, à partir d'un moment, elle a arrêté de me parler dans sa langue ancestrale. Elle se disait sûrement que j'aurais pas besoin de cette langue-là.
Cette langue ancestrale ?
C'est le Telugu qu'elle parlait, qui était sa langue maternelle. On a échangé dans cette langue-là, donc c'est une langue pour moi très intime, jusqu'à ce que je rentre à l'école primaire.
D'accord.
Ensuite, elle ne m'a plus parlé dans cette langue-là.
Vous évoquez, Natacha Appana, les migrations, l'importance de ce que ces migrations nous obligent, pour l'enrichissement d'ailleurs, de prendre ici et là, et de laisser également, c'est ce qui fait nos constructions. Mais on sait, quand on laisse quelque chose, il en reste toujours un petit peu malgré tout. Et vous avez, dans la mémoire délavée, cette image sublime pour ouvrir l'ouvrage, celle d'oiseaux. Des oiseaux migrateurs sont des étourneaux ici. Nous, pour vous, nous avons des cigognes.
Mais qu'est-ce que tu as assommé comme ça?
On l'a blessé, docteur. Puis tu fais ce que je te dis.
Toi, je suis vétérinaire.
On s'en fout.
Ah, elle a peur toujours.
Vous avez des enfants, docteur?
Oui. Si tu tiens tes enfants, tu sauves le pélican.
Ce n'est pas un pélican, c'est une cigogne. Tu fais peur.
Non, c'est rien, non, tu fais pas de mal. Non, c'est rien.
Respire.
Mais qu'est-ce qu'elle a, docteur?
Elle a été blessée. Probablement par un chasseur.
Fasciste. Ils ont abattu dans le ciel.
Connard, ils l'ont pris pour un sans-papier.
Les cigales, par ici?
Non, elles ne font que passer. Elles vont vers l'Allemagne ou l'Alsace.
Les cigales viennent d'Afrique, d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, elles viennent en Europe. Entre mars et avril, pour venir reproduire en Europe. Et bon, ils sont parfois des sous-traîtres entre 800 et 1000 km.
Les gens, oui. La cigogne apporte les nouveaux nids dans les familles européennes au printemps. Si je comprends bien, elle apporte des enfants africains et nord-africains.
Bah oui, tout simplement. Je suis né d'une cigogne, le film de Tony Gatliff en 1999. Natacha Appana, vous, ce sont des étourneaux qui... font leur vol dans le ciel et c'est absolument magique. Et on retrouve cet attrait et intérêt pour la nature que vous évoquiez avec ces champs de canne à sucre. Il y a le moment de la source, celui du dépôt, du départ, de l'arrivée. Et puis il y a, comme les cigognes ou les étourneaux, ces migrations. Il y a cet entre-deux. Et c'est là que l'écrivaine, l'autrice arrive. Est obligé aussi de poser toutes ces hypothèses sur qu'est-ce qui s'est passé, sur ce déplacement avec ces traits que vous traciez au stabilo en Inde, et puis après la traversée, puis après.
Oui, et c'est un, je dirais, vous savez, l'exercice de la fiction est un exercice de distance. Et je, la mémoire délavée, ce récit est mon premier récit, donc personnel, avec le jeu. On pourrait dire que c'est un récit, on pourrait dire que c'est une biographie. Je ne sais plus appeler les choses. La littérature n'est pas une forme pure, n'est-ce pas ? Donc, et je me suis rendu compte combien je devais me poser la question de l'endroit d'où j'écris, de la distance que j'avais avec non seulement mes grands-parents, mais avec cette histoire-là. Je ne cherchais pas simplement à raconter. Je me rendais bien compte que pendant 10 livres avant, je suis d'ailleurs encore obsédée par le déplacement des êtres humains, par l'asservissement d'un homme par un autre homme, par l'identité qui est pour moi une chose mouvante, qui est une chose qui a un rapport très ténu avec la survie. Et je me disais, mais comment tout ça s'inscrit dans ma propre histoire familiale ? Est-ce qu'il y a certaines choses qui m'ont été transmises ? Mais pas de manière orale, mais de manière impalpable. Est-ce qu'il y a des choses que dont nos corps se souviennent ? Et on ne sait pas les nommer, on ne sait pas dire d'où ça vient exactement. Et je me rendais compte combien dans cette enfance un peu étrange entre deux mondes, dans un village où les arbres semblaient préhistoriques, où il y avait plusieurs langues, et en même temps, moi j'allais à l'école, je lisais Marcel Pagnol, vous voyez, je lisais Enid Blyton, je parlais l'anglais et le français, mais à la maison il y avait 3 autres langues. Donc dans cette ce monde étrange, ce pays propre à moi dont je devais faire les contours, je voyais bien que il y avait là un mystère.
C'est ce mystère, en fait, qu'il faut tenter d'explorer.
Exactement. Mais quel est ce mystère ? Quelle est cette chose impalpable qui fait qu'on écrit, qui fait qu'on écrit comme cela, et qui fait qu'on est obsédé par certaines choses ?
Quand vous avez écrit « Les rochers de poudre d'or », qui est ce roman qui évoque ce même sujet que la mémoire délavée, mais sous une forme différente, « Les rochers de poudre d'or », c'est en 2003, c'est votre premier roman. Est-ce que vous imaginiez déjà, parce que le sujet est votre histoire, vous projeter dans cette histoire-là en disant le « je » ?
Jamais. Jamais. J'avais l'impression, à l'époque, que exister en littérature ne pouvait l'être que par la fiction, que par le romanesque. Mon désir profond, c'était ça, c'est d'incarner un autre, une autre. Et même si ces 5 personnages étaient des Indiens, étaient probablement très semblables à mes ancêtres, pour moi, c'était des personnages imaginaires. Pour moi, c'est un grand récit d'aventure avec tous les éléments. D'ailleurs, tous les motifs littéraires sont là. Hein, les motifs de la traversée de la mer, ce bateau, la séparation des êtres, l'arrivée sur une terre inconnue. Bon, enfin, c'est du pain béni quand on cherche à écrire un premier roman. Mais vraiment, je pense que si quelqu'un m'avait dit que 20 ans plus tard, je réécrirais cette histoire avec le jeu, et là que je m'autoriserais à dire je ne sais pas, à dire ici, il y a un grand creux, ici, il y a sûrement un mensonge, mais ce n'est pas à moi de le révéler, je pense que je ne l'aurais pas cru.
Puisque nous parlons de mystère, aujourd'hui, la mémoire délavée, le jeu est utilisé. Quand vous regardez de manière rétrospective cet ouvrage d'il y a 20 ans, Les rochers de poudre d'or, vous vous dites, ben tiens, oui, si en fait, il y a une part de mon mystère là-dedans qui s'est dévoilée. Et en relisant votre ouvrage, vous vous dites pas un peu, mais en fait, je ne le savais même pas, mais il y avait vraiment tout de moi dans cette première histoire.
Je n'ai pas relu Les rochers de poudre d'or depuis un moment. Mais... vous savez, un premier roman, c'est particulier. On l'écrit avec une grande naïveté, un désir immense d'être publié, un désir de bien faire, surtout quand on est comme moi, de mon origine. Je n'ai pas grandi en France, je suis arrivée en France et je veux faire ce travail étrange qui est d'écrire des histoires en français et de les publier. Donc, je crois que c'est un premier roman marqué par l'envie de bien faire, l'envie de montrer quelque chose de l'ordre aussi du classicisme. C'est un roman très classique, avec trois parties, une partie en Inde, une partie sur l'eau et une autre partie à l'île Maurice. C'est un roman où, justement, le jeu... en tant que mot, en tant que langage, n'existe pas du tout, sauf sur le bateau, sauf entre deux mondes où ce médecin anglais utilise le jeu parce qu'il a, voilà, là aussi c'est un motif littéraire, il a un journal. Donc moi c'est mon premier pas dans le romanesque. C'est drôle, je n'arrive pas du tout à l'imaginer autrement. Il reste pour moi un livre d'imaginaire, un livre voilà, où tous les éléments romanesques y sont. Mais bien sûr, il y a quelques anecdotes de ma propre famille que j'ai intégrées dedans, parce que ces anecdotes sont tellement incroyables. C'est l'histoire d'un enfant qu'on perd quand on descend du bateau. Et ma mère m'avait raconté cette histoire-là, et je l'ai trouvée incroyable. Et comment ne pas mettre ça dans un roman ? Et pourtant, la réalité dépasse la fiction.
Ben vous avez bien fait de le mettre en roman, mais aussi en récit au sens où il y a ce voyage. Ça part dans les deux cas de l'Inde, Madras. Dans les deux cas, ça arrive jusqu'à l'île Maurice. Mais ce n'est pas une histoire locale, c'est une histoire mondiale.
Adieu, foulard, adieu, Madras, adieu, grain d'or, adieu, collier, jour, doudou en moins, et capaté, hélas, hélas. C'est pour toujours, doudou en moins, qui qu'a pâti, hélas, hélas, c'est pour toujours. Bâtiment là, qui dans la rade là, prend de moi, mène-lui aller. Doudou en moi, qui qu'a pâti, hélas, hélas, c'est pour toujours. Doudou en moi, et qu'a pâti, hélas, hélas, c'est pour toujours.
Adieu foulard, adieu Madras, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bouek, aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Adieu foulard, adieu Madras, par Henri Salvador, hein, c'est une chanson de la fin du XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle qui nous conduit aux Antilles, avec l'évocation de Madras par le tissu, le Madras, mais Madras c'est l'Inde. Natacha Apana, dans cette réflexion que vous avez sur votre histoire, l'histoire de votre famille, il y a une portée universelle et on sent, c'est pour ça que ça touche énormément, c'est partir, Faut-il revenir ? Les origines, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on oublie ?
Oui, absolument, merci. J'avais vraiment à cœur de sortir d'un prisme, si vous voulez, de sortir de ce côté peut-être parfois un peu nombriliste et de dire, mais en réalité, partir, transgresser ce grand tabou que les Indiens avaient, s'installer quelque part, travailler toute sa vie, apprendre une autre langue, apprendre plusieurs autres langues. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est actuel ? Qu'est-ce que c'est moderne ? Qu'est-ce que... je me rendais compte du balancier éternel de l'histoire, que l'histoire nous revient à chaque fois. Je me rendais compte de ce motif récurrent qui est le bateau, qui transporte des hommes d'un endroit à un autre. Et ce bateau-là existe encore aujourd'hui. Il y a encore des bateaux pour transporter des hommes d'un endroit à un autre.
Il y en aura toujours. La mer, c'est, enfin, il y a de très belles évocations dans la mémoire délavée de cette mer qui sert toujours à relier des territoires avec des gens, toujours, qui se déplacent. Et ce grand tabou que vous venez d'évoquer pour les Indiens, quel est-il ?
Oui, les Indiens pensaient que, à partir du moment où ils quittaient leur pays et qu'ils allaient sur la mer, ils perdraient toute leur indianité, leur identité. Ils appelaient l'océan Indien le Kalapani, qui veut dire l'eau noire. Et ils pensaient que sur cette eau, il y avait un mystère, on revient au mystère, il y avait un mystère qui faisait qu'ils étaient, vidés de leur substance, qu'ils ne sauraient plus qui ils étaient. Et quand même, je trouve ça assez incroyable, assez formidable, de transgresser ce grand tabou-là, qui est de se dire, mais tout le monde vous parle de ça. Attention, si tu vas sur l'eau, tu ne sauras plus qui tu es. Tout ce que tu as été, tout ce que tes parents t'ont dit que tu étais, tu ne le retrouveras plus. Et pourtant, ils ont été plus d'un million à le faire.
C'est absolument impressionnant hein, d'entendre ces chiffres et ces destins qui... Et c'est là où il y a ce paradoxe absolu avec l'engagisme, ces contrats signés, c'est l'espoir d'une vie meilleure sans aller alors que l'on trouve sous les rochers, mais se dire peut-être et en travaillant.
Sûr.
Et puis après, la réalité du quotidien qui était extrêmement dure. Mais c'est ça, c'est vaincre le tabou pour chercher une vie meilleure pour soi, sans doute. Et pour ses enfants aussi, parce que voilà, parmi les numéros qui sont évoqués dans la mémoire des lavés, qui en réalité sont des individus, il y a des suites de numéros et il y a les parents, les enfants.
Bien sûr, ils venaient en famille. Et ils venaient en famille dans l'espoir que leurs enfants soient un peu mieux lotis qu'eux. Mais je dois dire ici quand même, on parlait du siècle qui me sépare d'eux, Je vois bien, mais mes grands-parents étaient analphabètes, mais ils ont envoyé tous leurs enfants à l'école. Je me rappelle, je crois pas que je l'ai dit dans le livre, ma grand-mère devait faire un grand voyage, enfin un voyage en Europe avec son mari, et elle a été faire son passeport, elle ne savait ni lire ni écrire. Et vous savez, on signait avec le pouce, l'empreinte du pouce. Et elle l'a refusé. Elle trouvait que c'était indigne. Elle trouvait que c'était humiliant de faire ça. Je ne sais pas ce que ça lui rappelait. Elle est rentrée et elle m'a demandé si je pouvais lui apprendre à écrire son nom. Donc j'ai commencé à lui apprendre l'alphabet. Moi, j'avais 8 ans. Donc je lui ai appris l'alphabet, je lui ai appris à écrire son nom pour qu'elle puisse signer simplement ce papier. Et elle avait 2 semaines. Et je ne sais pas, enfin, je trouve ça formidable qu'elle se soit tournée vers moi et pas vers mon père, par exemple, qui est son fils. Et je me souviens que les premiers noms qu'elle a écrits, elle n'a pas écrit son nom, elle a écrit mon prénom et le prénom de mon frère. Et j'ai encore l'image dans ma tête de cette feuille blanche où il y a mon prénom, le prénom de mon frère. Vous savez, quand on apprend aux enfants d'écrire, ils respectent pas quand il n'y a pas de ligne, ils ne la respectent pas. Donc ça descendait comme ça. Et je n'avais que 8 ans. Et je me dis, mais personne n'a pensé à garder cette feuille-là. Elle est perdue à jamais, cette feuille. Je me dis, mais ma mère ou mon père aurait dû garder cette feuille incroyable où cette femme qui avait 75 ans écrit pour la première fois quelque chose et elle choisit le nom de ses petits-enfants. Mais je l'ai dans ma tête, ça. Et donc, cette chose-là, cette fierté, cette envie de dire non, je ne vais pas être à nouveau sur la plantation et signer mon laissez-passer avec mon pouce. Non, mon passeport, je veux signer de mon nom. Et ça, ça m'apporte une joie incroyable.
Mais vous pouvez, parce que là, dans ce que vous nous racontez, Natacha Appana, vous l'avez dit, cette feuille n'est pas perdue, elle est dans votre tête, elle est dans cette narration que vous nous offrez, merci mille fois. Et puis, elle est dans ce contraste entre cette grand-mère, c'est elle la pierre pour faire les épices, etc.
Oui, oui, absolument.
C'est elle qui avait cette pierre-là, cette grande maîtrise, parce que travailler aussi dur, labourer des champs, ça demande de grands savoirs et de grandes maîtrises. Et cette transmission avec ce petit objet qui est un crayon, cette fragilité qui est une feuille de papier, cette transmission qui vient de la plus jeune, vous, 8 ans, envers elle, c'est cette transmission inverse, c'est ce va-et-vient en fait qui est passionnant dans la transmission.
Oui, exactement, c'est ce balancier, ce va-et-vient. Il me semble, elle m'a appris tellement de choses, mais je crois que moi aussi, me revient, je lui ai appris à comment utiliser le téléphone, par exemple. Elle était fascinée. Et j'avais imaginé un système avec des codes de couleurs pour qu'elle puisse identifier les numéros. Et, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'appelait ? Elle m'appelait tout le temps pour savoir si ça marchait. Mais je lui disais, après 2-3 fois, mais ça marche. Mais quand même, elle rappelait. Et elle avait une joie enfantine d'un savoir qui n'était pas destiné à elle. Elle le savait, ça. Elle savait que ce savoir-là, le fait d'écrire son nom, de savoir utiliser un téléphone, d'allumer la télé, de changer de chaîne, des choses comme ça, c'était des choses qui ne lui étaient pas naturelles. Et le fait de les apprendre, de les maîtriser, lui procurerait une joie immense. Je suppose que c'est comme quand on apprend à faire, quand on est enfant et qu'on apprend à faire quelque chose, comme on dit quand on est enfant, je veux faire toute seule. Et elle faisait les choses toute seule, certaines choses, alors que elle avait un tel savoir. C'est quand même une femme qui a accouché toute seule. Elle a eu plus de 10 enfants et elle a accouché toute seule.
En travaillant jusqu'au dernier jour.
Jusqu'au dernier jour, absolument.
Pourquoi toute seule ? Elle ne voulait pas se faire aider ?
Je ne sais pas très bien. Je pense qu'elle avait tellement peur du mauvais œil. C'était sa grande peur dans sa vie. Et je crois aussi qu'elle avait confiance. Elle n'avait confiance qu'en son corps et dans cette manière très personnelle, très intime, très féminine aussi, d'écouter ce que son corps disait et ce qu'il fallait faire. Et elle disait toujours, enfin elle a dit à ma mère en tout cas, je rentrais chez moi et j'accouchais toute seule, accroupie sur une toile de jute.
Dans cette histoire, il y a le monde d'avant, l'histoire de l'engagisme, hein, c'est l'Inde, le monde d'après, un futur, c'est l'île Maurice, il y a cet entre-deux, c'est la mer. Natacha Appana, dans votre vie, il y a de ça aussi, vous le dites très clairement. Il y a ce monde ancien, celui de vos grands-parents qui vous ont élevé. Et puis, celui nouveau de vos parents, vous êtes un peu dans cet entre-deux, en fait. Vous êtes ce trait d'union, vous êtes sur la mer.
Oui, 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 je suis entre les deux, avec des grands-parents, un alphabète, mais d'une affection, d'un amour pour moi qui dépassait, qui m'apportait énormément de choses, et mes parents qui eux étaient instruits et qui avaient une très grande ambition sociale. Pour nous, qui voulaient qu'on fasse des grandes études, qui voulaient qu'on aille à l'étranger, qu'on soit premier à chaque examen. Et je me souviens, quand je ramenais Un jour, j'ai ramené un 18 sur 20 et mon père m'a dit, ils sont passés où les deux points?
Donc, certaines exigences.
Voilà, une certaine exigence et aussi une certaine autorité. Nous n'avions pas le droit de n'avoir pas 20 sur 20.
Comment ça se passait les cours d'histoire d'ailleurs à l'école? Vous étiez une élève très intéressée par le moment histoire?
Non, pas du tout, parce que ça se passait de manière très bancale. L'histoire était enseignée comme quelque chose qui ne nous appartenait pas. Je me souviens, je pense que c'est au collège, c'était le Moyen-Âge, et c'était très mal enseigné, je suis désolée de dire ça, c'était très mal enseigné. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, nous avait été transmis de manière indirecte, de manière plate, de manière à apprendre des dates, à apprendre certains faits que tout le monde connaît. Et il se trouve que à l'île Maurice, il y a eu un bateau, on reparle des bateaux, avec 1500 juifs qui sont arrivés en 1940. Qui voulaient rejoindre le port d'Haïfa et qui sont restés à l'île Maurice pendant 5 ans. Ils ont été enfermés dans une prison de droit commun parce qu'ils étaient considérés être des sans-papiers. Et moi, j'ai appris cette histoire, j'avais 24 ans, par hasard. Et j'ai été prise d'une grande colère envers mes professeurs d'histoire parce que je me suis dit, mais personne n'a pensé à nous dire ça. Et il se trouve que 126 juifs sont morts au cours de leur détention. Et il y a un cimetière qui existe, qui s'appelle le cimetière de Beaubassin. Et c'est une route qui est très empruntée, parce que c'est une route qui mène à une plage. Et avec ma famille, j'ai dû l'emprunter des centaines de fois, cette route-là. Et j'aurais aimé, vraiment, qu'on me dise que sur cette route, je pouvais m'arrêter et rendre hommage à mon tour. Et quand je suis arrivée en France, je suis une... Les deux conflits mondiaux, ce sont de grands sujets d'intérêt pour moi. Et je me suis toujours imaginée comme étant une personne née sur un pays étranger à la Seconde Guerre mondiale. J'ai des amis, beaucoup d'amis, dont les grands-pères, les grands-mères, les pères parfois racontent des choses sur la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je trouvais ça formidable, cette mémoire vivante, ces choses palpables. Et je me disais, c'est incroyable. Moi, cette histoire-là n'existe pas dans mon pays. Et à 24 ans, j'apprends cela.
Et vous écrivez.
Je m'appelle Raj et je vis à Beaubassin.
David m'a regardé et il m'a dit, aussi lentement...
Je m'appelle David et je vis ici. Avant, je vivais à Prague.
Je n'ai pas douté une seconde que Prague se trouvait ici, dans le pays. Quelque part, un peu enfoncé, un peu oublié, comme ma poule était. Je me souviens qu'à l'école, au mur, il y avait une carte de notre île. Mais ma poule n'y était pas et je l'avais signalée à Mademoiselle Elsa. Elle m'avait souri en m'expliquant qu'elle était désolée, mais que sur une carte, seules figuraient les villes importantes et les gros bourgs. Cet après-midi, quand David m'a dit qu'il vivait à Prague avant, évidemment j'ai pensé que c'était par là, perdu entre deux villes importantes, un simple village, trop insignifiant pour être indiqué sur une carte.
Pourquoi es-tu en prison?
Je sais pas. Et toi?
Je sais pas.
Tu es juif?
Non.
Ta maman est là?
Non, elle est à la maison. Et ta maman?
Elle est morte. Mon père aussi, il est mort. Tu as des frères et sœurs?
Non, je suis tout seul.
Moi aussi.
Le dernier frère, votre roman, Natacha Apana, en 2007, avec cette démarche que vous venez de nous expliquer, cette histoire de ces juifs qui tentent de se réfugier en Palestine, mandat britannique, ils sont renvoyés, ils arrivent sur l'île Maurice, certains sont enfermés. C'est incroyable de se dire, je ne la connais pas, j'en fais un roman, Mais il y a une volonté aussi de transmission, de dire cette histoire, il faut la connaître. C'est du roman, bien sûr, ça aurait pu prendre forme d'ouvrage historique sans aucun souci. Vous êtes écrivaine, vous faites des romans. C'était ça, c'était dire, tenez, il y a cette histoire qu'il faut connaître par le roman et puis étudions ça après.
Et je crois que c'est un roman qui est né d'abord d'un sentiment de... J'ai eu l'impression d'avoir été trahie par tous les adultes qui m'ont élevée, qui ne m'ont pas raconté cette histoire-là, qui ne m'ont pas dit que cette chose-là existait, vraiment. Et ensuite, vous savez, je suis... très attentive, et je crois que tous les écrivains doivent l'être, et beaucoup le font aussi, de faire attention à l'endroit duquel on écrit. Et cette histoire, donc, c'est 1500 juifs qui se retrouvent à l'île Maurice, fuyant l'Europe, mais sur le port d'Haïfa, ils n'arrivent pas à débarquer. Et Haïfa, étant sous mandat britannique, décide de les envoyer sur une colonie britannique qui est l'île Maurice. Et ils débarquent, et donc là, ils sont enfermés, parce que je disais, ils sont considérés comme sans papier. Et ils restent 4 ans dans une prison. D'abord, les femmes et les hommes sont séparés. Ensuite, ils sont réunis. Et il y a ce cimetière. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que cette chose ne soit pas... qu'il n'y ait rien d'écrit dessus. Alors, il y a deux choses qui étaient écrites. Il y a un livre de Geneviève Pitot qui s'appelle Le Dernier Shekel. Et je cherche pendant, je sais plus, peut-être pendant 15 mois, à récupérer un livre qui a été traduit chez Albin Michel d'une femme qui s'appelle Ruth Stöckel, excusez-moi, je prononce mal, qui s'appelle Au revoir, Arets, et elle raconte son voyage. Et moi, je tiens à avoir ce livre parce que je me dis, dans ce livre, je vais découvrir ce qui se passe dans la prison, je vais découvrir ce qu'il n'y a rien d'écrit, rien n'existe. Et j'arrive à acheter ce livre chez un bouquiniste de San Francisco par Internet. Ça fait un chemin, ça prend plein de bateaux. Et le livre arrive, et fébrilement, je le lis. Et en réalité, il n'y a que 5 pages sur l'île Maurice, 5 pages sur sa détention. Et ce sont 5 pages de fiel. Elle dit qu'elle déteste ce pays. Elle déteste cette île. Oh, ces palmiers sont d'une laideur. Cette terre est d'une laideur. Et je lis ça et je comprends le chagrin. Je comprends ce que c'est que avoir fait tout ce voyage, voulant rejoindre la Palestine, voulant rejoindre cette terre sacrée, et d'arriver sur une île dont on ne sait même pas le nom et on ne sait pas pourquoi on est enfermé. Mais là, se pose la question pour moi, mais qui raconte cette histoire? Qui doit la raconter? Quelle est la nécessité pour moi de raconter cette histoire qui ne suis pas juive? Je ne peux pas la raconter du point de vue d'un juif, puisque leurs descendants existent toujours, leurs enfants existent. Et donc là, je passe 2-3 ans à essayer de trouver la voix du personnage, qui va raconter? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un infirmier? Et voilà. Et je trouve la voix de ce vieil homme qui se souvient que quand il était enfant, son père travaillait dans une prison et qu'il avait là rencontré l'histoire de sa vie, l'amour de sa vie, et c'est un jeune garçon blond.
Le dernier frère. Ça, c'est ce roman Natacha Apana, porteur d'histoire, mais... comme vos différents ouvrages, avec la mémoire délavée, c'est un récit, c'est un moment autre au Mercure de France. Pour terminer, la pierre qui était chez vos grands-parents pour les épices, elle est où aujourd'hui?
Elle est toujours dans cette maison, mais elle n'est plus utilisée du tout.
Mais elle est toujours là.
Elle est toujours là. Et ma mère en a une chez elle, qui lui a été transmise par sa mère.
Voilà, c'est mieux qu'un robot ménager.
Ah oui, absolument. ça fait des plats beaucoup plus délicieux.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai, je vous assure.
Bon, on retient. On va faire une émission culinaire avec vous, Natacha Apana. Merci vivement d'être venue dans le cours de l'histoire.
Merci à vous.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
« Comment l'Ukrainienne Sarah Stern est-elle devenue Sonia Delaunay? Sonia Delaunay est une artiste peintre qui a contribué à enrichir le patrimoine culturel français de deux manières. Tout d'abord, elle a inventé une forme de peinture issue du cubisme qu'Apollinaire a appelé l'orphisme. Avec son mari, Robert Delaunay, elle a surtout travaillé sur la recherche de la couleur pure et du mouvement des couleurs simultanées, une tendance qui a inspiré d'autres peintres après eux, notamment Fernand Léger. Cette façon de représenter la réalité apparaît bien dans l'un des tableaux les plus connus, intitulé « Le bal Bullier », qui date de 1913. Les aplats de couleurs géométriques, carrés ou rectangulaires, font de ce tableau un véritable patchwork dans lequel les contrastes des couleurs et de leurs formes impulsent le rythme du temps et les gestes des danseurs. Le second domaine artistique qui s'est enrichi grâce à Sonia Delaunay est celui qu'on appelle aujourd'hui le design. Après la Première Guerre mondiale, elle s'est mise à dessiner et à décorer des accessoires féminins, des sacs, des ombrelles, des châles, mais aussi des chaussures, des chapeaux, des maillots de bain. Les spécialistes estiment qu'elle a joué un rôle pionnier dans le développement du prêt-à-porter, mais comme cette forme d'art était alors considérée comme tout à fait secondaire, elle a longtemps desservi la réputation de notre artiste peintre. L'itinéraire de Sonia Delaunay est instructif aussi pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'immigration. Celle qui s'appelait alors Sarah Stern est née le 14 novembre 1885 dans une famille juive qui habitait une petite ville d'Ukraine dépendante à l'époque de l'Empire russe. Elle a décrit sa famille en ces mots. « Mon père était ouvrier. Il travaillait dans une fabrique de clous. Je tiens de lui une grande intransigeance, l'horreur de la cupidité et de la mesquinerie. » Elle fut adoptée à l'âge de 5 ans par Henri Terck, un oncle avocat à Saint-Pétersbourg dont elle prit le nom et qui lui a fait découvrir le milieu de la culture. Elle découvrit Paris en 1905 pour suivre des cours à l'Académie de la Palette dans le quartier du Montparnasse. Sonia tomba sous le charme d'une ville qui était alors la capitale mondiale de l'art, à tel point que, dans un entretien paru en 1978, elle disait encore « Je ne me sens bien qu'en France, et encore, pas partout, avant tout, l'Île-de-France, c'est ce que j'aime le plus. » Pour devenir française, elle épousa en 1908 Willem Huddet, un critique et marchand d'art, qui a joué un rôle important dans le développement du cubisme et de l'art naïf. Mais cette union était un mariage de complaisance, un mariage blanc, comme on dit aujourd'hui. C'était une façon pour Willem Huddet de cacher son homosexualité à une époque où elle était encore fortement réprimée, et un moyen pour Sonia de devenir française. Elle divorça quelques mois plus tard pour épouser Robert Delaunay en 1910. Si les mesures introduites dans le Code civil par la loi du 30 décembre 1993 et renforcées en 2003 concernant les mariages de complaisance avait existé au début du XXe siècle, Sonia Delaunay aurait pu être condamnée à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 15 000 euros.
Eh ben dis donc, merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Maïwenn Guizhou, Tom Umdenstock, Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Coppet et Raphaël Laloum, et merci à toute l'équipe du cours de l'histoire qui s'adonne à l'exercice de la lecture et c'est sublime. Merci aussi à l'Institut National de l'Audiovisuel, le cours de l'histoire, à podcaster, à écouter sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture invente le manga audio, épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Dorwido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Dorwido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hocquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.